Les nuits de France Culture, 1h, 6h du matin. La Belgique, dans les années 60. Des tensions linguistiques, déjà, elle se focalise à Louvain sur l'université catholique. Pour la Fabrique de l'Histoire, Marie Capucine Dis a visité les lieux où les manifestations étudiantes troublaient la tranquillité de l'université pluricentenaire. Louvain 1968, le lion flamand, le guet wallon et l'autopompe.
Le jour de la rentrée, il y avait eu pas mal d'agitation. Je me souviens bien quand je suis rentrée le soir chez mes parents, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On a entendu parler de ça à la radio à plusieurs reprises pendant la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, oh, rien de grave, sont les Flamands qui ne nous acceptent plus fort à Leuven, mais enfin, ça leur passera.
On s'attendait à quelque chose, mais quoi?
C'est très simple, on a des grands partis, pas on ne part pas. Allez, faites un geste, comme ils font maintenant, faites un geste, non, on ne part pas, c'est tout, on ne part pas. Oui, mais si, il n'y a pas oui, mais si, et on ne part pas.
Louvain 68, le lion flamand, le guet wallon et l'autopompe.
On était finalement très près d'une guerre civile, il ne faut pas se cacher. À ce moment-là, la situation était très, très dangereuse, très explosive.
Visite de la bibliothèque de Louvain, Leuven en flamand, avec l'archiviste Marc Deray.
C'est très sympa. Oui, c'était la grande salle de lecture qui a été occupée quelques fois par les étudiants.
Oui, il y a du bois partout, c'est vraiment très chaleureux.
C'est une salle, la décoration intérieure date des années 40 et des années 50. Et c'est plutôt un intérieur que j'appelle toujours, c'est un art déco, dans un style art déco, catholique et presque colonial, parce qu'il y a un peu partout des motifs coloniaux, africains, presque africains. C'est un art déco catholique tardif, mais c'est très monumental. C'est une grande tarte de mariage à l'américaine, soi-disant dans un style flamand, mais personne ne voyait plus cet aspect flamand. C'était d'abord un genre de kitsch américain. Et à l'intérieur, c'était une institution tout à fait démodée, vide. Et ce style, ce n'était pas tellement apprécié dans les années 70, dans les années 70. Au moment de la scission, c'était encore un peu la bibliothèque générale de toute l'université qui symbolisait le centre, the center of knowledge, le centre de connaissance universelle. Le bâtiment était le bâtiment universitaire le plus monumental de la ville. À part des halles universitaires, c'était la bibliothèque centrale, qui était le bâtiment le plus symbolique, entre autres parce que la bibliothèque a été détruite deux fois par les Allemands, en août 14, lors du début de la Première Guerre mondiale, et en mai 40, lors de la deuxième invasion des Allemands, la bibliothèque a été détruite par les Allemands. Alors, certains francophones, certains Wallons ont dit que la splitting, la scission, la partition de la bibliothèque de l'université, ça signifiait la troisième destruction. Cette fois-ci, pas par les Allemands, par les Teutons, par les Boches, mais par les Flamands. Hein, toujours des collaborateurs des Boches.
Créée en 1425 par privilège accordé par le pape Martin V, l'Université catholique de Louvain s'affirme au fil des siècles comme un foyer intellectuel de premier plan, aussi bien en théologie ou en droit que dans les matières scientifiques. Erasme et son projet humaniste s'y épanouissent. L'enseignement est dispensé en grec, en hébreu, en latin, auquel succède le français. Au début du XXe siècle, sous la pression du mouvement nationaliste flamand, les cours, dispensés en français, commencent à être dédoublés pour être donnés en flamand. La vie étudiante est marquée par la tradition et le regroupement des étudiants en régions, en fonction de leur ville d'origine. Quand le dédoublement des cours est achevé dans les années 30, les francophones et les flamands n'ont plus d'occasion de se fréquenter. Au XIXe siècle, le mouvement flamand tente d'imposer, sans succès, le bilinguisme dans l'ensemble de la Belgique. Temporairement discrédité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le rapprochement de son aile la plus radicale avec l'occupant nazi, le mouvement flamand reprend de la vigueur dans les années 60. Les revendications linguistiques dominent alors la vie politique. La question semble être réglée avec les lois linguistiques de 62 qui partagent le pays en trois grandes régions. Le nord flamand, le sud francophone et Bruxelles, capitale bilingue. Mais à Louvain, les querelles sont loin d'être éteintes. Située en région flamande, Leuven représente pour les nationalistes flamands une menace culturelle francophone. Avec la démocratisation de l'enseignement supérieur, les étudiants sont de plus en plus à l'étroit dans les murs de l'université. L'occasion pour les militants flamands de demander le départ des francophones qui, eux, n'ont pas du tout envie de quitter Louvain.
Je suis Mgr Édouard Massou. J'ai été recteur de l'université catholique francophone pendant 20 ans. Je suis le dernier recteur en vie. Voilà, maintenant, je jouis d'une retraite depuis plus de 20 ans maintenant. Il y a eu 20 ans le 16 septembre. Mon histoire à Louvain, je n'ai jamais quitté Louvain. C'est-à-dire, après mon grand séminaire, après mon ordination à la prêtrise, l'évêque m'a envoyé faire la théologie à Louvain. Bon, j'ai fait ma théologie, j'ai fait le doctorat, et j'ai été nommé alors professeur à Louvain. J'ai donné, enseigné à la faculté de théologie, n'est-ce pas, où les cours se donnaient encore en latin.
Jusqu'à quelle année?
Jusqu'au moment de la séparation, définitive.
Als Vos komt, professeur Vos, weet je wel, hè? Professeur d'histoire contemporaine, il a une certaine générosité dans sa physionomie. Als hij komt, wij zijn ergens onderweg, de leeszaal of studentenmuseum of zo. Hè? Dus hij wordt geïnterviewd voor Franse cultuur.
Ah ja, oké.
Okay. C'est aussi c'est la grande tour, c'est un peu un beffroi. Et la bibliothèque a été conçue comme un cadeau de la France. Ben, c'est un autre aspect, hein. A été conçue comme un grand cadeau à la Belgique, après la Première Guerre mondiale. Mais les Français ont été tellement charmants qu'ils ont conçu l'idée, et ils ont laissé le financement de l'idée et l'exécution aux Américains. Aux généreux oncles américains de l'autre côté de l'océan. Monsieur Vos. Je l'ai vu.
Vous l'avez vu là-bas?
Oui, oui.
Et puis j'ai même été finalement bibliothécaire en chef là-bas. Et là, à ce moment-là, ça a déjà été une protestation, parce que c'était un francophone qui a été nommé d'abord bibliothécaire en chef adjoint, le précédent, M. Van Kamenberg, qui était un flamand. Et il m'a fait dire, d'ailleurs, vous devez me succéder, et monseigneur, vous rendez compte, moi, je connais pas le flamand assez, pour ça, non, ben vous irez en Hollande pendant 3 mois, et puis c'est bon. Bon, ce qui a été fait chez les Dominicains, que je connaissais bien, qui était professeur d'écriture sainte, qu'est-ce que tu viens faire, ben, je veux dire, apprendre votre langue, ben, tu la parles déjà. Je dis, oui, mais je la parle pas bien. Alors ils m'ont dit, ben maintenant, on te dira plus seulement français. Alors je suis resté là 2 bons mois. Puis je suis revenu, j'en avais marre de vivre chez les Dominicains.
Quand vous êtes rentré, vous parliez bien flamand.
Oh bien, ça peut te dire, mais enfin, tout le personnel de la bibliothèque était fatalement des flamands. Mais ils connaissaient tous le français sans problème.
Monsieur Vos est arrivé. Professeur.
Je m'appelle Louis Voss, j'ai été étudiant ici à Leuven de 65 à 69. J'ai étudié histoire, maintenant je suis professeur d'histoire contemporaine ici à Leuven, je donne aussi cours à Courtrai.
Pourquoi vous aviez décidé de venir faire vos études à Leuven alors ?
Ah, parce que je suis catholique. Aujourd'hui, ce n'est pas une raison, je crois, mais dans le temps, on était encore complètement dans une atmosphère d'éducation catholique. J'étais dans un collège catholique. Naturellement, je n'ai pas vu de filles avant d'arriver à Louvain, pour ainsi dire. Et on était dans un mouvement de jeunesse. Les mouvements de jeunesse étaient très répandus ici, dans ce temps de loisirs où on était ensemble, on faisait du camping, etc. C'était toujours dans une atmosphère catholique et flamingant. Quand on arrivait à Leuven, on peut s'épanouir, on peut prendre ses propres décisions sur le plan politique. Enfin, c'était la socialisation politique. Et dans ce temps-là, le mouvement flamand d'étudiants de Leuven était un peu encore l'avant-garde du mouvement flamand plus général.
Je m'appelle Paul Gossens, j'étais dans le temps, dans les années 60, à Louvain. Je suis devenu journaliste et je suis resté journaliste jusqu'à maintenant. Tout le monde a une histoire, également les individus, flamands. Ils viennent d'une famille. Moi, je viens d'une famille catholique. L'université de Louvain était et est encore une université catholique. Et dans le temps, c'était encore différent de la situation actuelle. Les évêques de Belgique étaient présents à cette université. Ils avaient une idée de la Belgique, une Belgique unitaire. Belgique unitaire, mais c'est là que, quand on voit les hommes politiques ou les premiers ministres belges des dernières années, ils viennent tous de Louvain presque. C'était la fabrique pour former l'establishment catholique flamand.
Après les siècles d'esclavage, le Belge sortant du tombeau, a reconquis par son courage son nom, ses droits et son drapeau. Souveraine et fière, peuple désormais attendu, brava sur ta vieille bannière, le roi, la loi, la liberté, brava sur ta vieille bannière, le roi, la loi, la liberté.
Il n'existait plus depuis la Deuxième Guerre mondiale une Belgique bilingue. Donc j'ai toujours vécu dans un environnement monolingue. Et c'était la même chose pour mes copains, mais pour les étudiants francophones. Et donc quand on arrivait ici dans une ville qui est une ville flamande, on avait l'impression que les Wallons étaient des étrangers. Donc ça veut dire que la langue devenait le symbole de l'identité, plus à Louvain qu'ailleurs, parce qu'ici on rencontrait des gens qui parlaient une autre langue et qui sont apparemment qui ne veulent pas parler néerlandais. Et donc ils veulent même prendre place ou s'enraciner ou c'est pas s'ancrer dans la ville et transformer cette ville qui est une ville flamande dans une ville bilingue. Et ça c'est de l'impérialisme naturellement. Et pour ça on disait voilà, Wallen, Wallon, go home, ça veut dire vous êtes ici en terre flamande, sur terre flamande, donc vous n'êtes pas chez vous.
Wallen,
Ça commençait déjà, je me souviens très bien, le matin, il y avait un peu de brouillard, on se rassemble dans la place de l'ancien marché. Et Wallen Button, ça veut dire donc les ballons dehors, et Wallen Go Home, c'était une grande pancarte, mais enfin, il y a beaucoup de petits pancartes qui étaient déjà là, qui ça a été préparé, et graduellement, donc, la place du Vieux Marché se remplissait de gens, de, enfin, les copains, il y avait un type qui avait sur un bâton un poulet, qui est le symbole des Bruxellois, je crois, non? Wallen Buiten, c'est le côté négatif, le côté positif. Le Van Vlaam, ça veut dire Louvain flamand. Parce que c'est donc le programme positif. Le programme négatif, c'est Wallen Buiten. Il y avait aussi des flamands qui disaient, mais Wallen Buiten, c'est un peu gênant. Enfin. C'était une manifestation massive. Je ne sais pas combien d'étudiants étaient là, mais je me souviens qu'on a fait la manifestation par groupe d'étudiants du même orientation. Enfin, j'avais l'impression que, disons, 80% des historiens étaient là pour manifester, parce que tout le monde était pour la flamandisation ou la néerlandisation de l'université de Louvain.
Au printemps 65, une loi prévoit l'expansion de l'université catholique de Louvain. Le 15 décembre, une grande manifestation met la cause flamande dans la rue. Les autopompes de la gendarmerie prennent leur quartier à Leuven. De leur côté, les étudiants francophones optent pour la dérision. Le même jour, le 15 décembre 65, ils partent fonder une université folklorique dans l'est du pays, à Outsiplou, l'équivalent de Trifouilly-les-Oies.
Nous avons choisi Outsiplou parce que nous voulions faire une manifestation, mais qui soit une manifestation qui, à tout prix, éviterait des incidents. Alors, nous avions pensé partir hors de Louvain, et comme nous voulions donner également un ton ironique et humoristique à notre manifestation, pour cristalliser un peu plus les étudiants, nous avons choisi Outsiplou. Nous avons d'abord vu si Outsiplou existait sur la carte, et quand nous sommes rendus compte que ça existait, on a décidé d'y venir. Nous voulons également montrer la force des étudiants francophones de Louvain, et également leur cohésion, et également montrer qu'ils suivent les mots d'ordre donnés par leurs dirigeants. Et nous voulons également aussi alerter le pays, et spécialement les régions francophones du pays, pour qu'elles s'intéressent aussi à cette université qui est un patrimoine national et qui est aussi leur université.
Moi, je suis arrivé à Louvain. Le problème politique, la scission de l'université, était posé au niveau politique. Les étudiants étaient mobilisés. Ils recevaient leur mot d'ordre des partis politiques, disant voilà les thèmes qu'on doit mettre en évidence, voilà les slogans, voilà les actions qu'on devait mener. D'une certaine façon, on était, entre guillemets, des mercenaires. Le problème national flamand tel que s'était posé à Louvain, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Moi, j'avais beaucoup de contacts avec des Espagnols, des Latino-Américains qui étaient engagés politiquement d'une façon beaucoup plus radicale que moi je l'étais, car il y avait une tradition de guérilla de prêtres latino-américains qui ont fait des études à Louvain. Je ne participais pas à ce mouvement, mais j'étais conscient de ça. Et ça, avec tout le mouvement étudiant dans les années 60, la contestation, de suite, on a donné une autre coloration, un autre accent à tout ce mouvement à l'université.
« Les évêques de Belgique sont l'autorité référente de l'Université catholique de Louvain. Étudiants et corps professoral attendent avec impatience les décisions qu'ils prendront pour l'expansion de l'université. Le 13 mai 66, un mandement épiscopal réaffirme l'unité géographique et institutionnelle de Louvain.
Le jour du mandement, nombre d'étudiants flamands étaient d'une façon spontanée au centre de Louvain, attendant qu'est-ce qu'on va faire. Les leaders étudiants étaient en réunion, les leaders officiels que je n'étais pas, en réunion, ne sachant pas ce qu'ils devraient donner comme mot d'ordre, car eux étaient conscients que le risque était grand d'avoir un conflit avec le pouvoir de l'université. À un certain moment, j'ai pris la parole, j'avais un mégaphone près de moi, et j'ai dit, de cette université catholique, on ne veut plus. On décide ici de faire la grève pour le reste de l'année, et pour l'année après, ça sera une université pluraliste, et voilà. Et pour moi, ce qui a vraiment changé toute l'histoire, c'est cette autorité qui ne s'argumente pas, qui vient d'un autre siècle et qui dit à une nouvelle génération, voilà, that's the law. Et ça a vraiment enragé beaucoup de monde qui ne s'intéressait pas à l'aspect nationaliste de la question.
Alors, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Flandre. La Flandre qui était catholique, la Flandre profonde, la Flandre idéaliste et tout ça. C'était une révolte contre ces évêques, l'autorité de l'évêque. Et la raison pour laquelle, c'était justement le ton. C'est le ton qui fait la chanson. Le ton, c'était que, définitivement, décision, obéissance, supplier, accepter ce dernier mot. Ça, c'était incroyable dans ce temps-là. Et donc, on a vu une sorte de mouvement de libération même, d'émancipation en tout cas, des catholiques flamands dans tout le pays, pas seulement à Leuven, là, c'était commencé à Leuven, qui disaient, mais enfin, ça, c'est incroyable.
Le mouvement du côté flamand était une... C'était un mouvement linguistique nationaliste. Nationaliste avec des dérapages au niveau des slogans, notamment le slogan Wallenbeude. Immédiatement, on a dit Wallenbeude, c'est intolérable, c'est on n'accepte pas. On veut marcher pour la scission, mais pas avec un slogan pareil. Donc dans les manifestations, dans les meetings, il y en avait pas mal, on refusait et on, littéralement, on se battait contre ceux qui criaient le Wallenbeude, puisque c'était, selon nous, du racisme.
Paul Goossens était un leader charismatique, vraiment. Il pouvait parler français d'une manière très bonne. C'était vraiment un leader. C'était le temps des leaders de Rudi Dutschke, de Daniel Cohn-Bendit, c'était un peu plus tard. Ce n'étaient plus les gens qui étaient élus comme président de cercle des associations d'étudiants, mais c'était plutôt des activistes qui étaient là et qui pouvaient exprimer ce qu'on pensait. Et le charisme de Goossens était incroyable.
Rentrée universitaire à Leuven, le 10 octobre 66.
La messe du Saint-Esprit vient de commencer dans la collégiale Saint-Pierre. Les autorités académiques et le corps professoral de l'Université de Louvain ont pris place dans le chœur. Les étudiants sont dans la nef et le long des bas-côtés. La messe est dialoguée et chantée.
Vous pouvez nous la décrire un peu, cette photo, pour qu'on voit...
Et voilà. Donc, on voit la procession des professeurs. On voit encore des professeurs qui ont un bonnet ecclésiastique, parce qu'on avait dans le temps pas mal de professeurs prêtres, des chanoines. Et donc, ils représentaient le statu quo après la décision des évêques.
Le cortège des autorités académiques s'avance maintenant dans la rue des Alliés, la rue principale de Louvain, précédé par des sonneurs de trompettes d'ébène et par des massiers.
Il y avait toujours un cortège qui partait derrière l'universitaire jusqu'à... Je crois qu'on a fait la rentrée au théâtre cette année-là. On était attendus, évidemment. Mais on était encore unitaire, on était flamand, tout mélangé.
Et alors, on voit une haie d'étudiants démonstrativement montant leur dos vers ce cortège et entre-temps chantant, criant des slogans flamingants ou anti clérical. Oui.
Les trompettes d'ébène ont peine à couvrir la cacophonie, le wishalovocam des flamands auxquels répondent les chants des étudiants francophones. Des œufs pourris sont lancés maintenant par des manifestants flamands.
Je vais essayer de chahuter, que voulez-vous que je fasse?
Il est 13h30. La séance académique se termine, les personnalités sortent du théâtre communal de Louvain et les étudiants flamands recommencent à manifester aux accents du Vlaamseleeuw.
Ils tournaient le dos, ils ont chanté le Vlaamseleeuw qui est pour eux l'hymne national flamand. Puisque les évêques avaient parlé, c'est eux qui étaient le chef de l'université. Ils disent, bon, ils crient, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ben on bouge pas. Et moi j'ai toujours dit, on ne part pas. Et moi, j'ai contré l'histoire 68 à Louvain. Parce que j'ai rencontré le président des étudiants flamands un jour dans l'ascenseur au hall universitaire. Je lui dis, tiens, tu veux nous mettre à la porte? Non, ça ne m'intéresse pas. C'est faire sauter la baraque qui m'intéresse.
C'était Paul Gossens?
Exactement. Exactement. Mais il était malin, vous savez. Ce qu'il voulait, lui, c'est faire sauter la baraque. Moi, j'ai immédiatement nommé au conseil académique qui dirigeait l'université à l'intérieur. Un, puis après trois étudiants, un professeur, puis trois professeurs, parce que je me dis froidement qu'il était temps aussi de faire une certaine évolution d'université. Parce que ce genre-là, ça n'existait pas. Il y avait que les doyens qui assistaient à ça, hein. Le vice-recteur. Ça renforçait l'unité des francophones. Et là, on parlait beaucoup, évidemment, de ce qui se passait, de la scission qui se préparait. Et tout le monde, unanimement, disait, non, on ne part pas. Enfin, c'est pour ça que les étudiants venaient me ramener à la maison le soir, pour qu'on ne m'attaque pas dans la rue. Ils ont dû casser les carreaux chez moi, je vous ai dit.
Alors que les évêques affichent leur refus de diviser géographiquement l'université, déjà partagée en deux administrations distinctes, ils nomment en 63 Michel Watrin comme administrateur général de la section française. Le professeur Watrin part observer dans le monde entier le fonctionnement des villes étudiantes et cherche une terre d'accueil en Wallonie pour un nouveau campus francophone, une nouvelle Louvain. Jean-Marie Lechat travaille alors comme juriste dans le cabinet de Michel Watrin.
Mais il y avait tout de même ceux qu'on appelait les déménageurs qui acceptaient cette situation et ceux qui n'acceptaient pas. Et il faut tout de même dire que la grande majorité des professeurs n'acceptaient pas ce déménagement. Et c'est là que se trouve à ce moment-là l'arrivée du professeur Watrin. Mais lorsque on parle de déménager pendant 5 ans à peu près, le professeur Watrin va se défendre comme un beau diable pour dire non, 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 même si dans le fond de sa pensée, il sait que notre avenir, il se situe dans un retour à la communauté française.
Je m'appelle Gilberte Marchal, je suis professeur ordinaire à l'Université catholique de Louvain en droit judiciaire. Et à l'époque, bon, j'étais relativement jeune, j'avais 17 ans, je sortais de ma campagne, et donc tous les jours, je faisais la navette entre mon domicile et Leuven à l'époque, évidemment. Et le jour de la rentrée de ma première candie, il y avait eu pas mal d'agitation à Leuven. Et je me souviens bien, quand je suis rentrée le soir chez mes parents, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On a entendu parler de ça à la radio à plusieurs reprises pendant la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, oh, rien de grave, ce sont les Flamands qui ne nous acceptent plus fort à Leuven, mais enfin, ça leur passera.
On s'attendait à quelque chose, mais quoi? Eh bien, en janvier, on a ce fameux programme, le 13 janvier 68, que les autorités, entre-temps autonomes, francophones, académiques, ont décidé qu'il resterait pour toujours à Louvain. Alors, c'est éclaté une révolte nouvelle, mais qui est beaucoup plus radicale et violente que la première, et qui a duré pendant un mois. On commençait à disturber les cours des francophones.
Moi, ce qui m'a évidemment le plus marqué, c'est l'attitude de certains de nos professeurs. Nous avions certains professeurs à l'époque qui ont réagi au cours. On avait à l'époque un très grand professeur qui est décédé maintenant, qui était M. Léopold Génicot, qui donnait le cours de critique historique et d'histoire de Belgique. Un étudiant, je dirais flamand, bon, je ne sais pas dire exactement qui c'était, mais je crois que c'était un étudiant flamand, dévale l'amphithéâtre, prend les feuilles de papier du professeur Génicot et lui arrache des mains puisqu'il donnait cours. Le professeur Génicot, qui était un gars baraqué, très grand, qui lui a pris son poing et qui lui a mis à la figure. Il a étendu l'étudiant en question en notre présence, on était 200 ou 300 cours, je ne saurais pas dire. Ça fait peur. Ça fait peur parce que nous entendions crier d'autres étudiants, etc., à l'extérieur, et on avait quand même peur que les autres ne réagissent, quoi. Ça fait très peur.
Je me souviens d'être sur l'étage supérieur du bâtiment de lettres, et les étudiants francophones s'étaient barricadés à l'intérieur de l'auditoire. Il y avait deux portes. Et là, enfin, j'étais aussi avec ceux qui étaient en train de... d'essayer d'ouvrir cette porte avec nos épaules contre cette porte. Et alors il y a quelqu'un qui tout d'un coup a pris l'extincteur et il était là, oui, encore un peu, voilà, encore une fois, paf, et la porte s'ouvre d'une terre petite, justement assez pour passer donc le tube de l'extincteur. Alors il y a quelqu'un, je n'étais pas moi, enfin je ne sais pas qui, mais qui a effectivement donc déclenché le... Donc, tout d'un coup, il y avait une sorte de brouillard qui montait de là, parce que c'était de poudre blanche. Hein. Et alors, on a vu ouvrir l'autre porte qui était un peu plus loin dans le couloir, et on voyait là aussi cette sorte de nuage qui sortait, avec des petits pieds qui sortaient de là.
Mais les francophones sont en défensif, manifestement. Donc, il est certain que lorsque l'on analyse, je dirais, les positions qu'ils tiennent, on se rend compte qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile. Et je crois que le professeur Watrin, à ce moment-là, s'en rend extrêmement bien compte, et que c'est la raison pour laquelle lui a fait cette analyse depuis 1963, parce que nous avons des notes de lui qui, dès 1963, parlent de la création d'un campus sud. Le président de l'Assemblée générale des étudiants francophones a apporté, je dirais, un soutien très fort, je dirais, au projet du professeur Watrin, et c'était une chose très importante que cette communauté francophone, au moment où, je dirais, on exigeait son départ, se soude entre elles, quoi. C'est un traumatisme qui a rassemblé finalement, je dirais, les gens, mais avec beaucoup de professeurs qui restaient extrêmement, je dirais, fâchés, furieux de devoir quitter Leuven.
Le 2 février 68, l'évêque de Bruges déclare s'être trompé et regrette publiquement la décision collective de mai 66 affirmant le maintien de l'unité à Louvain. Le chef du gouvernement, Paul van den Beinans, confie aux autopompes le soin de ramener l'ordre à Leuven et tente d'imposer un consensus aux protagonistes. La crise se poursuit. Le 7 février 68, les ministres flamands du Parti social-chrétien démissionnent. La rupture sera irréparable entre socio-chrétiens flamands et francophones. Le gouvernement von den Beinands tombe, les chambres sont dissoutes et de nouvelles élections se préparent.
Je crois que ça fait 130 ans que la Belgique existe. Un problème a été posé pendant 130 ans et je crois qu'il restera posé encore longtemps. Il faudra s'y faire, mais j'espère que la jeune génération aura suffisamment d'intelligence et de compréhension pour les problèmes autrement importants parfois et pour pouvoir transcender les difficultés actuelles. Cependant, ne me faites pas dire que le problème linguistique n'est pas un vrai problème. C'est un problème réel, difficile, délicat. Voyez-vous, le vrai problème, c'est de savoir si on est décidé à vivre ensemble dans ce pays. Et si on répond non à cette question, eh bien alors il faut en tirer les conclusions et savoir qu'il n'y a plus de pays. Si on répond oui, eh bien alors chacun doit faire l'effort au nord et au sud. Car il ne faut pas essayer de chercher la paille dans l'œil du voisin quand on a une poutre dans son propre œil. Il est vrai que de part et d'autre, il y a des responsabilités. J'espère, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le vice-premier ministre et moi-même n'avons qu'un seul souhait à formuler ce soir, c'est que la Belgique surmonte rapidement, valablement et dignement cette crise, qui sans doute n'est pas plus grave que d'autres, mais qui est tout de même sérieuse, et ce pays mérite mieux.
Le fait qu'on a fait tomber un gouvernement, ça nous donnait l'illusion qu'on avait un pouvoir. On avait un certain pouvoir. Mais à la fin, oui, la scission de Louvain, ce n'était, pour nous, c'était vraiment pas l'essentiel. L'essentiel était les changements de structure, démocratisation de la société. À ce niveau-là, notre pouvoir était minime. Bon, on était de gauche contre les structures, contre les autorités. Ouais, c'est un peu la même histoire qu'en France. Ce qui était bien organisé, c'était la droite. L'extrême droite et la droite convenable nationaliste flamande. Et là, c'était, entre nous et eux, c'était la lutte idéologique pendant tout un temps.
Pour dire que vous avez Paul Gossens, qui est le leader des étudiants flamands, qui à un moment donné se rend compte que ce Wallen Beuten est extrêmement mal vu à l'étranger, dans beaucoup de communautés, comme étant assez raciste. Et il va essayer de manière très habile, au moment de mai 68, de le transformer en bourgeois Beuten. Mais je dirais, on s'était tellement tapé sur la figure, sans se faire tellement de mal d'ailleurs. Vous savez que finalement, hein, toute cette guerre, je dirais, linguistique, n'a jamais fait de blessés ou de morts. Mais quand même, on s'était tellement tapé sur la figure entre étudiants que les étudiants francophones, qui auraient pu être éventuellement en mai 68, je dirais, alléchés par ce slogan de bourgeois Beuten, n'y ont pas mordu.
Puis on fait un beau jour, finalement, le gouvernement a fait savoir, bon, puisque maintenant, partez, vous partirez. Moi, j'ai répondu froidement, non, on ne part pas. On ne part pas.
Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas partir?
Pour le principe, moi. Je n'ai pas du tout envie, n'est-ce pas, de céder à un chantage qui n'avait pas de raison d'être. D'autant plus qu'en fait, l'université était déjà, tous les cours se donnaient en flamand et en français. Les professeurs faisant les deux, souvent. Pas tous, mais beaucoup. Alors, on ne part pas.
Si nous n'avions pas été aussi combatifs, il est évident que, vous imaginez bien que nous n'aurions jamais eu les moyens financiers pour pouvoir, je dirais, nous rétablir ailleurs. La majorité, la grande majorité se défendait, voulait rester à Leuven, N'oubliez pas que le recteur de l'université, Mgr Massot, a toujours dit et m'a encore rappelé il y a 2 ans que pour lui, c'était le péché contre l'esprit d'avoir, je dirais, exigé cette scission des chrétiens à Leuven entre francophones et néerlandophones. Mais il était vrai que d'une certaine manière, la stratégie du professeur Batrin était de dire on le fera chèrement payer pour que nous acceptions à un moment donné de nous en aller.
Monsieur Batrin a pris la chose en main et a fait faire une prospection de ce que serait. Et alors on est retourné dire oui, à 2 conditions. C'est que nous ayons la liberté de faire ce que nous voulons, et dont coûte 17 milliards de francs belges d'alors.
Vous avez rapidement pris votre parti quitter Leuven.
Il fallait bien. Le vin était tiré, il fallait le boire. Mais ne pas avoir de boire de la piquette, hein, sinon.
En juin 68, la nouvelle coalition gouvernementale approuve le déménagement complet de la section francophone de Leuven. En septembre, une programmation de transfert prévoit que la nouvelle université sera bâtie dans la commune d'Ottigny, à 20 kilomètres au sud de Leuven, dans le Brabant wallon. La construction de Louvain-la-Neuve commence en 71.
Je pense que le tout grand problème du professeur Batrin est de dire une université est un carrefour. C'est un carrefour qui rassemble, bien sûr, je dirais, des jeunes et des adultes, des enseignants et des enseignés, des Belges et des étrangers. C'est ça l'idée avant tout. Et qu'on ne peut probablement pas la concevoir, je dirais, dans un campus extérieur. Il faut la concevoir dans un milieu urbain. La première chose. La deuxième chose à ce moment-là, c'est de dire, on ne saura pas faire un vrai carrefour où les gens se rencontrent si on reste avec une circulation automobile telle que déjà en 68, on la pressent. Donc, ce n'est pas une volonté de créer des parkings souterrains, c'est le fait que, malgré tout, il faut quand même que les gens puissent accéder. Et donc, pour cela, on ne sait faire qu'une seule chose, c'est de les mettre en sous-sol. Donc, je crois que l'utopie, elle était au départ de dire, on veut faire une ville carrefour où les gens se rencontrent. Bien sûr, ça se traduit alors de manière très pratique. Dans les tout premiers auditoires, par exemple, nous n'avons pas fait de sortie au fond de l'auditoire, je dirais, à l'endroit où le professeur enseigne. Ça veut dire qu'il est obligé de repasser à travers les bancs des étudiants pour sortir à l'extérieur. Il va devoir sortir dehors, je dirais, là-bas, au milieu des étudiants. Et non pas pouvoir, comme on pouvait le faire éventuellement à Leuven, se sauver par un petit escalier pour descendre dans un parking, prendre sa voiture et s'en aller. Voilà les choses. Mais est-ce là ce qu'on appelle de l'utopie? Bon, moi je pense que c'était des choses que l'on pouvait effectivement, avec un petit peu d'astuce pratique, résoudre.
Mais le public n'a pas d'accès ici à ce magasin de livres. Mais à ce moment-là, dans les années 60, je pense que cet étage était vide parce que les numéros pairs étaient déménagés vers Louvain-la-Neuve. Et les numéros impairs étaient pour les Flamands, étaient ici. Alors, la proposition de partager la bibliothèque, c'était une proposition venue des francophones. Et peut-être qu'ils avaient raison. C'était une solution très, très arbitraire, mais qui était peut-être juste pour les deux parties. Mais on a dit aussi qu'on a divisé des encyclopédies et des revues, mais ce n'était pas vrai. Bon. C'est une des légendes belges, des blagues belges, très populaires chez les Hollandais et chez les autres voisins, chez les Français. Il y a des exceptions hein, sur cette partition arbitraire, pair-impair, il y a des exceptions. Par exemple, toutes les donations, tous les cadeaux que l'université a reçus, spécialement des grandes collections, des grandes bibliothèques de particulières, bibliothèques privées, qu'on a reçues des professeurs. Par exemple, la collection la plus précieuse de la bibliothèque, toujours, c'était une collection de lettres écrites par les humanistes, les savants, les grands intellectuels de l'Europe au début du XVIe siècle. Et ces lettres étaient écrites par
Erasme, par Thomas More, tous les grands noms de la République des Lettres au début du XVIe siècle. Alors il y avait un problème pour la chasse aux signatures, parce qu'il y avait vraiment une chasse aux signatures. Les deux parties, les francophones et les néerlandophones, chassaient des signatures des héritiers du donateur pour recevoir sa signature. C'est pour les Flamands ou c'est pour l'autre côté? Bon.
Et alors comment ça s'est passé pour finalement pour cette collection alors?
Elle est restée chez nous. Alors tout est à Louvain, à Leuven, à Louvain flamand pour le moment. Bon, il y a d'autres histoires. Et j'ai toujours l'impression que les francophones, que nos compatriotes sont très contents de la partition de la bibliothèque. C'est presque le seul aspect de la partition dont ils sont contents. Alors je peux m'imaginer qu'ils n'ont pas fait de mauvaises affaires ici.
Mesdames, Messieurs, le roi.
Sire, vous me permettrez en tout premier lieu de dire combien nous sommes touchés de vous recevoir parmi nous aujourd'hui. Après de lourdes et longues années d'épreuves, notre université entre ce jour dans une ère nouvelle de son histoire séculaire. L'Université de Louvain, fondée par le souverain pontife Martin V en l'an du Seigneur 1425, mais transférée ici par moitié afin de continuer comme auparavant en langue française l'enseignement et le progrès de la science universelle, renaît en cet emplacement de Louvain-la-Neuve où sous le règne et en présence du roi Baudouin Ier, en la fête de la Sedes Sapientiae, patronne de l'Université catholique de Louvain, le 2 février de l'an du Seigneur 1971, le recteur Édouard Massot posa cette première pierre en témoignage de la rénovation de l'Université et de notre confiance.
Monseigneur Massot, 40 ans après ces événements, quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé?
Un regard de tristesse, mais je n'y pense plus, pour oublier. Je peux vous dire carrément que j'ai oublié. Bon, j'ai pardonné, que vous voulez, je vais montrer l'exemple moi-même.
Vous avez utilisé l'expression de « péché contre l'esprit ». C'est quoi le fond de votre pensée?
Ma pensée, c'est qu'on met une autre université catholique à la porte. Dans toute l'histoire du monde, ça n'est jamais arrivé, vous savez. Jamais une université a mis une autre à la porte. Et il faut que ça se passe entre chrétiens, alors. La charité, vous, hein, où est-ce qu'elle est? Ça m'a heurté, et je l'ai toujours en travers de la gorge.
Mes enfants m'ont posé parfois cette question, ils m'ont dit, mais est-ce que tu en as gardé quelque chose? Notamment, parlons franc, un ressentiment, une rancœur vis-à-vis du nord du pays, à la suite de ça. Eh bien, bizarrement, non. Bizarrement, non. Peut-être parce que je n'étais pas très impliquée dans les mouvements, ça c'est possible, mais je m'en ai... oui, comme ça je disais, c'est dommage, parce que on aimait bien Leuven. Leuven est une très belle ville. Mais un ressentiment vis-à-vis des Flamands comme tel, non. Je dirais que les années passant, pas au moment même, mais les années passant, on se dit oui, mais enfin, pourquoi ça? Et on était finalement très près d'une guerre civile, il ne faut pas se cacher. À ce moment-là, la situation était très, très dangereuse, très explosive.
Je crois que l'on peut dire tout de même que la bourgeoisie wallonne, francophone, bruxelloise d'ailleurs aussi, était très présente au fond dans Leuven par, je dirais, le fait de l'ensemble de ses professeurs, quelques centaines de professeurs francophones dans Leuven. L'ensemble des étudiants étaient majoritairement des fils de bourgeois francophones. Et au fond, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient arrogants en exigeant que l'on parle français dans cette ville flamande. Et j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, nous, en communauté française, nous savons maintenant, nous avons appris qu'une communauté riche est souvent très arrogante vis-à-vis d'une communauté qui est plus pauvre qu'elle.
Les autres objectifs, la démocratisation de la société, le pouvoir, oui, les vrais problèmes de pouvoir, là, qu'est-ce que 68 a réalisé? On a mis en cause une autorité comme on l'a fait en France. Est-ce qu'on a vraiment changé la société? Peut-être un tout petit peu, mais pas fondamentalement. Donc, le bilan est très mitigé, je crois. L'impact de 68 pour la Belgique a été réel et profond, je crois. C'était le début de la fin de l'État unitaire. À partir de Louvain 68, tout a changé dans ce pays. Avec les partis politiques, une réforme de l'État. Ce qui s'est passé à Louvain était vraiment le début d'une longue histoire et d'une histoire qui peut avoir comme conséquence la scission de la Belgique.
Merci à Marc Deray et Louis Voss, Monseigneur Massot, Paul Gossens, Jean-Marie Lechat, Gilberte Marchal, Michel Watrin, Jean Germain, Bichara Kader et les services des archives de Louvain-la-Neuve et de Leuven. Prise de son, Olivier Leroux et Bruno Niewdanski. Mixage, Claire Levasseur. Louvain 68, le lion flamand, le guet wallon et l'autopompe. Un documentaire de Marie-Capucine Dis et Charlotte Roux.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 novembre 2007 dans La Fabrique de l'Histoire.